Co-table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour Louise Bourrat.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir dans ce format personnalité de Sur le grill décotable. Les passionnés de Top Chef t'auront peut-être reconnu, tu es l'heureuse gagnante de Top Chef édition 2022. Pour retracer un peu ton parcours, tu es une chef cuisinière franco-portugaise, tu as grandi dans la région de Lyon et suivi un BTS hôtellerie-restauration. Tu as ensuite effectué des stages dans divers restaurants étoilés, à l'hôtellerie de l'abbaye de la Selle, du groupe Alain Ducasse, puis au chalet de la forêt de Pascal de Valkenner à Bruxelles. Tu es ensuite partie à Londres rejoindre ton frère Alexis Bourrat au bar Boulud, un des restaurants du mandarin oriental Hyde Park. Puis, changement de continent, tu déposes bagages en Amérique latine et plus précisément au Chili où tu participes au projet d'ouverture du restaurant El Franchute del Barrio. Désormais, tu es chef du restaurant Le Boubouze à Lisbonne, ouvert initialement par ton frère et sa femme. Tu y proposes une cuisine souvent qualifiée d'irrévérencieuse. Tu as également ouvert récemment le Boubouze Sandwich Club, un parcours donc déjà bien garni. L'objectif de ce podcast est d'apprendre à te connaître au prisme de l'alimentation et des enjeux écologiques auxquels tu sembles attaché. Pour commencer, je voudrais que les auditeurs et auditrices apprennent à te connaître via ton portrait de cuisine. Je te demande simplement de répondre à des questions de façon spontanée. Es-tu prête ?
Ça marche. Allez, on y va.
Si tu étais un plat.
Ah oui, faut spontané et rapide. Voilà, oh là 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 là. Si j'étais un plat, une raclette.
Ah ouais.
C'est plus une activité en soi.
Origine lyonnaise en plus ou enfin montagnarde pas loin.
Ouais voilà ça doit être ça.
Si tu étais un ingrédient.
Le citron.
Vert ou jaune?
Plutôt jaune.
Ok. Si tu étais un ustensile de cuisine.
Ah une marise. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au Portugal, on appelle ça Salazar, comme le nom du dictateur, parce que où Salazar passe, il ne reste plus rien derrière.
Ah. Un alcool ?
Un alcool, le mezcal.
Une boisson non alcoolisée ?
Une boisson non alcoolisée, bah, le café. Hein.
Ah ouais.
Le café, encore et toujours.
Boisson la plus bu au monde. Après l'eau, évidemment.
C'est le nerf de la guerre hein, pour nous.
Si tu étais un ou une autre chef.
J'aimerais bien. mon idole de toujours, Dominique Crène.
Ok, tu peux nous dire qui c'est, pour ceux qui le
Dominique Crène, c'est notamment les nouvelles jurys de Top Chef cette année. Mais c'est une chef d'origine bretonne qui est installée aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Et c'était la première femme à recevoir 3 étoiles au Guide Michelin. Aux États-Unis, du coup. Et c'est une femme à la fois c'est une activiste pour le droit des femmes, qui est aussi très, très engagée pour l'écologie et pour une alimentation et une gastronomie plus durable aussi. Et puis, c'est un personnage d'une bonté et d'une jovialité et d'une humilité aussi qui est assez incroyable et qui est extrêmement inspirante, qui fait beaucoup de bien. Donc j'aspire vraiment à, même si je pouvais devenir 10% de Dominique Crène, avec grand plaisir. Donc je m'y attelle.
Ton dernier restaurant coup de cœur.
Pas évident. Je mange beaucoup au restaurant, hein, pourtant, mais... dernier restaurant, coup de cœur. Alors, si, il y en a un que j'aime beaucoup, mais du coup, qui est à Lisbonne, qui s'appelle SEM. Et c'est un restaurant qui... qui a été ouvert en fait par l'ancien head chef de Silo à Londres, qui est un peu le comment il s'appelle, de Douglas McCaster, qui est un peu le papa du zero waste, en fait, du zéro déchet. Et voilà, ils ont ouvert leur petite réinterprétation du concept de Silo à Lisbonne. Et en plus d'être excellent, c'est aussi hyper ça bouscule un petit peu notre gastronomie à nous, la scène gastronomique à Lisbonne. Et puis, bah, encore une fois, c'est très inspirant parce que, ouais, il repousse au maximum les limites de la durabilité, en tout cas. Donc, c'est très, très chouette. C'est un très bel endroit, très bon endroit. Il en faudrait plus.
Plutôt cuisine française ou cuisine portugaise?
Bah, une fusion des deux, idéalement. Mais j'ai quand même une petite pas préférence, mais sensibilité. Ouais, la cuisine portugaise, elle m'est très chère, en tout cas.
Pourquoi?
Parce que en fait j'ai grandi en France, mais avec cette double culture là, et ça a été un petit peu, en tout cas la cuisine portugaise c'était un petit peu mon refuge et ma manière de me reconnecter à ces racines là. Donc
parfaite transition pour la question suivante, ta Madeleine de Proust.
Ma Madeleine de Proust. Madeleine de Proust.
Ou ton premier souvenir marquant lié à l'alimentation?
Mon premier souvenir marquant, ça doit être, bah en fait, je pense, un de mes premiers souvenirs en étant de toute ma vie, c'est faire des œufs cocottes avec ma mère. Et en fait, bah, je pouvais les faire toute seule et rapidement. J'ai pris goût à la cuisine vraiment depuis aussi loin que je me souvienne. Et je suis devenue très rapidement autodidacte, en fait, peut-être à 5-6 ans, en capacité de faire des gâteaux au yaourt, etc. Peut-être le gâteau au yaourt, du coup.
Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges?
Absolument, ouais, énormément.
En termes de santé et écologie?
Et oui, tout à fait. Tu veux que je développe?
Ouais, vas-y.
Ok.
Parce que je trouve que c'est dur quand on mange beaucoup au restaurant de faire attention à ce qu'on mange.
Oui, et c'est dur. Enfin, il y a énormément de chefs en fait qui ne cuisinent pas chez eux. Et ça a été mon cas pendant longtemps aussi, parce que moi, ce que j'aime dans le fait de cuisiner, c'est de cuisiner pour les autres. Et pendant longtemps, je vivais toute seule, donc je me nourrissais un petit peu pour me nourrir. Maintenant, je commence un petit peu à reprendre goût à faire des petits plats le week-end quand je travaille pas. Après, mon compagnon, lui, était, quand je l'ai rencontré, il était végétarien. Bon, à cause de ma mauvaise influence, il est devenu pescétarien. Mais bon, en tout cas, c'est déjà avant lui, je consommais, j'achète pas de viande. Mais bon, dans tous les cas, protéines animales, c'est quelque chose qu'on consomme très peu. Et puis, ces derniers mois, j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten, comme beaucoup de gens.
Comme tout le monde, quasiment.
Donc, à mon grand dam, malheureusement, mais du coup, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange, en tout cas, les processus biologiques et chimiques que ça engendre dans mon corps. Donc, je suis plus à l'écoute de ça et je me sens beaucoup mieux.
Et est-ce que du coup, tu arrives encore à te retrouver le plaisir, en tout cas, de cuisiner chez toi, en dehors du restaurant?
Oui, énormément.
T'es la première chef, je pense, hein, qui me dit ça.
Ah oui?
Bah souvent, en effet, t'as l'impression que en fait ils cuisinent tellement la semaine qu'en fait, le moment où ils sont off, ils cuisinent pas, quoi.
Après, mon boulot aujourd'hui, même si je suis en cuisine la moitié de la journée, quand c'est le moment de faire de la mise en place, je suis dans les bureaux en train de faire autre chose et plus de chapeauter. De toute façon, en fait, je me fais virer de la cuisine par mon équipe parce que je pense que je deviens trop rouillée, en fait. Mais en tout cas, quand je suis chez moi, en tout cas, enfin, j'essaye de réorganiser mon rythme de vie pour avoir plus de soirées et déjà d'avoir plus de temps pour moi et plus de temps à la maison aussi, justement pour pouvoir cuisiner et en fait avoir une vie un petit peu plus saine.
Ouais.
J'espère qu'on pourra en reparler plus tard sur ces questions-là, mais il est important et impératif de réinstaurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle dans notre industrie. Donc il faut que je commence par moi déjà.
Ouais, c'est clair. Et puis la question, je trouve, on en reparlera aussi, mais de la santé au restaurant, tu vois, d'intégrer l'aspect santé dans les plats que tu sers, quoi.
Absolument, dans les plats qu'on sert et puis dans la façon dont on va aussi nourrir notre staff.
Ouais, complètement.
J'ai pas mal de végétariens dans ma cuisine. Et en fait, nous, j'achète aucun aliment qui est juste destiné à la consommation, enfin, vraiment juste pour le repas du staff. On va acheter peut-être des légumes secs et ce genre de choses. Mais vraiment, en fait, toute la nourriture du staff, ça va être juste en fait les parures, ce qu'on va pas forcément servir aux clients. Donc en fait, je vais peut-être pas décrire ma cuisine que je sers comme zéro déchet. Elle est dans cette mouvance-là, mais plus en fait l'opération globale du restaurant est zéro déchet en fait, ouais. Et est zéro waste, parce qu'en fait on jette absolument rien à la poubelle. Ce qui va à la poubelle, c'est ce que les clients vont laisser dans l'assiette, qu'on va pas les récupérer du coup. Mais ça permet quand même, voilà, déjà de les éduquer par rapport à ça, de leur permettre de s'exprimer aussi à travers de leur nourriture à eux. Et puis on a toujours cet aspect santé, diversité dans l'assiette, dans ce qui nous est, dans ce qui leur est proposé à tous. Et c'est hyper intéressant. Ils sont hyper reconnaissants aussi, parce que c'est toujours un buffet avec plein de couleurs et plein de choses. Et si on peut pas cuisiner avec amour pour les gens avec qui on passe toute notre journée, je vois pas comment on peut cuisiner avec amour pour les gens qu'on connaît pas et qui viennent dîner chez nous le soir.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est un moment vraiment hyper hyper important, et il y a cet aspect santé et diversité, et prendre le temps de s'asseoir et prendre le temps de savourer, qui est vraiment central.
Oui, et puis même t'as envie que les gens soient pas fatigués après avoir mangé, parce qu'en fait ils vont devoir travailler, donc il faut les nourrir.
Exactement.
Avec des nutriments.
Tout à fait. Donc on évite les pâtes, les farines raffinées, etc. Parce que, enfin, je sais que si je mange ça, j'ai un service dans 15 minutes, je vais m'endormir en fait. Je vais m'endormir, mon cerveau va avoir, je vais plus avoir cette vivacité d'esprit en fait.
Ouais, ouais.
Donc non, c'est très important.
Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier?
Ce que je préfère le plus dans mon métier, déjà dans ma cuisine, ce que je préfère le plus, et depuis toute petite, hein, parce que c'est vraiment mon hobby depuis gamine, ça va être ce côté méditatif en fait, vraiment manuel, d'avoir en fait de pouvoir poser son cerveau et juste de se concentrer sur ce qu'on fait avec nos sens et avec nos mains. Ça c'est la première chose, et après c'est tout l'aspect créatif qu'il y a derrière, que ce soit par rapport à la nourriture en elle-même, mais après c'est énormément de choses. Ça va être la musique, ça va être le lieu, ça va être la décoration, ça va être peut-être le concept qu'on va essayer de déployer derrière, que tout fasse sens. Puis après il y a de la créativité dans les techniques de management, dans l'expérience qu'on va faire vivre à ceux qui viennent nous rendre visite. Donc et puis après il y a la diversité aussi de... Je fais pas que cuisiner, hein. Je m'occupe du marketing, je m'occupe de la DA générale du restaurant, du management, etc. Donc c'est assez large,
ouais,
en soi.
Ce que t'aimes le moins?
Le marketing.
Devoir vendre ton truc, quoi.
C'est vraiment paradoxal. C'est un truc que je me répète tous les jours, mais c'est... En fait, je suis restauratrice. Ça, c'est mon travail. Sauf qu'en fait, en 2023, on te demande aussi d'être plus ou moins influenceur. Enfin, en tout cas, d'avoir cette double casquette médiatique, en fait.
Ah, surtout quand tu fais des émissions comme Top Chef.
Et surtout quand tu fais des émissions comme Top Chef. D'autant plus quand tu fais une émission comme Top Chef, mais même de manière générale, t'es obligé d'être un petit peu sur la toile, quoi.
Ouais.
Et j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Je n'ai pas forcément... Enfin, si j'en ai, je préfère faire autre chose. Mais j'ai à la fois... dans mon fort intérieur, je me dis, mais en fait, ça sert à rien, c'est une vaste mascarade. Et d'un côté, j'ai tout ce qui est attendu de moi, qu'il faut que, voilà, il faut que je rentre dans le rang. Donc, je suis en constante battle, en fait.
J'entends.
Ouais.
Est-ce que tu peux te présenter maintenant de manière plus traditionnelle? Qui es-tu, Louise Bourrat?
De manière plus traditionnelle, waouh, pas évident. Louise Bourrat, restauratrice, chef et personne assez simple.
Tu as quel âge?
J'ai 29 ans.
Ok, donc tu es en couple et tu vis à Lisbonne.
Tout à fait.
Tu es souvent qualifiée comme rebelle, que ce soit dans ta personnalité ou ta cuisine. Déjà, pourquoi? Est-ce que toi, tu te qualifierais comme telle?
Oui, parce que je l'ai toujours été.
Ah ouais?
Ouais, depuis
même
depuis
avec tes
toute
parents.
Petite. Oui, non, complètement. Quand j'avais 4-5 ans, ils me perdaient tout le temps dans les supermarchés, ou même on était sur le bord de mer. dimanche après-midi à faire une balade. En fait, j'allais partir très très loin, ils allaient me perdre pendant 3-4 heures.
Mais l'enfer ?
Oui. Ah non, mais l'enfer. J'ai pas d'enfant, mais j'ose à peine imaginer.
Je peux pas imaginer.
Horrible. Horrible. Et je m'excuse. Je continue de me confondre en excuses encore à chaque fois que je les vois pour ces événements assez malheureux. Mais en fait, j'avais jamais peur. Donc, c'était au bout de 4 heures. Je m'en suis compte. Ah, bah, j'ai perdu mon papa et ma maman. Donc, j'allais aller voir la première grande personne que je croisais. Bon, bah, j'ai mon papa et ma maman sur le bord de mer. Est-ce que vous pouvez m'aider à les retrouver? Mais hyper détente, quoi. Y a pas de souci.
Oh,
et ça a continué, toute mon adolescence aussi. Hein. Je faisais le mur tous les soirs. Et après, en plus, mais horrible. En plus, mon discours après, c'était non, mais je sais que je suis suffisamment responsable et capable de m'occuper de moi-même. Donc, je vais prendre la responsabilité de faire ça en fait. Je suis maître de moi-même. J'ai décidé que j'étais un petit peu en avance et que du coup, j'allais prendre ma majorité un petit peu plus tôt.
Si t'as des enfants, tes parents, ils vont rigoler, je me pense, quand ils vont te voir.
Ouais.
Et du coup, est-ce que ça se ressent dans ta cuisine?
J'espère que oui. Après, je fais pas une cuisine une cuisine originale pour juste le fait d'être original. C'est qu'avant tout, il faut que ce soit délicieux avant tout. Elle doit pas être rebelle juste pour le fait d'être rebelle.
Ouais, ouais.
Y a tellement de chefs, il y a tellement de plats, il y a tellement de... Il faut quand même encore réussir à surprendre le client, en fait. Donc, mais j'essaye de pas perdre de vue le fait que la base, la cuisine, ça doit quand même être bon de base.
J'ai lu dans tes interviews que tu avais eu un peu honte de t'engager dans la cuisine au début. Pourquoi ?
Oui. Vraiment, parce que en fait, j'en ai toujours eu honte. C'était un truc que j'ai caché pendant les 18 premières années de ma vie, presque. Ça a toujours été mon hobby. Ça veut dire que depuis aussi loin que je me souvienne, tous les week-ends, je m'enfermais dans la cuisine à faire des gâteaux, des macarons, des pâtisseries et que sais-je encore. Mais j'avais un peu honte, je pense, vers les années collège où en fait... Le samedi, on est plutôt censé aller faire du shopping avec les copines. Moi, je préférais rester à la maison, en fait, et aller m'acheter plutôt du matériel de cuisine et des livres. Et puis après, en continuant mes études, le lycée, etc., je savais que la cuisine, c'était encore considéré comme une voie de garage, c'était pas très élitiste. Et j'étais quand même pas mauvaise à l'école. Et j'ai toujours eu la volonté de réussir dans la vie. Et j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux et je voulais je me voyais comme une femme accomplie qui réussit par elle-même, etc., etc. Donc il fallait que je suive le schéma d'études classique, un peu plus élitiste, quoi. Donc je me suis embarquée dans un truc qui me correspond pas du tout, scientifique, spé, maths, enfer. Puis j'étais très mauvaise à ça en plus. Jusqu'à ce que, au bout de ce cursus-là, je me suis dit, tout le monde savait autour de moi que j'allais finir chef. C'était évident, mais on le savait, c'était...
Et ta famille était OK avec ça?
Ouais, bien sûr, ils étaient OK. J'avais déjà mon frère et ma sœur qui étaient dans l'hôtellerie, en fait.
Ah bon, OK.
Après, vu que je suis la petite dernière, ma mère avait encore l'espoir que sa petite dernière allait faire des études d'art, ou je sais pas, mais juste, s'il vous plaît, pas à l'hôtellerie, pas un troisième dans l'hôtellerie.
Est-ce que tes parents, ils sont pas du tout là-dedans?
Ils sont pas professionnellement là-dedans, mais j'ai une partie de ma famille qui est dans l'hôtellerie, enfin qui est dans la restauration à Lyon, donc c'est un truc qui a quand même vachement fait partie de mon histoire familiale. Mais elle, qui est un peu plus arty, etc., elle avait quand même cet espoir-là, que du coup j'ai.
C'est un peu de l'art, la cuisine.
Aujourd'hui, elle est très contente.
Oui.
Aujourd'hui, elle est hyper contente parce qu'il y a cet aspect artistique qui est très présent. Et du coup, pour les vœux, comme on appelle ça, enfin, c'est Parcoursup aujourd'hui, j'avais mis cinéma, art appliqué, etc. J'avais mis pas mal de vœux. Et le seul vœu que j'avais mis concernant l'hôtellerie-restauration, c'était la meilleure école publique en France d'hôtellerie.
Qui est ?
Qui est l'école de Thonon, de Thonon-les-Bains. Et je m'étais dit, si je suis prise, c'est que c'est ce que je dois faire. Enfin, c'est... Et j'ai été prise. Et là, mon monde s'est un petit peu écroulé. J'étais, ah non, mais vraiment, je vais aller porter des tailleurs noirs sous le genou avec des coulants couleur chair.
L'hôtellerie, les écoles d'hôtellerie, c'est encore un sujet sur ça. Hein. Oh là là,
J'ai pas fait long feu en école d'hôtellerie. Ouais. Ça a duré un an et demi. Et d'un commun accord, on est parti chacun de notre côté. Mais parce qu'il y avait encore, enfin, cet aspect hyper rebelle chez moi où, bah, par exemple, le tailleur, c'était pas possible, quoi. Donc, il fallait que je trouve un moyen de le détourner parce que je pouvais pas coller avec ce truc-là, quoi. C'était impossible.
Et du coup, qu'est-ce que t'as fait?
Du coup, j'ai arrêté mes études en plein milieu et je suis partie à Londres.
Ok, mais alors attends, j'ai dit n'importe quoi dans l'intro sur le BTS.
J'ai commencé un BTS, mais je suis restée même pas 6 mois.
Ok. Mmh.
Et en fait, le problème, c'est que je me suis plus ou moins fait virer.
Comment ça, plus ou moins?
Parce qu'en fait, ma première année de BTS, je n'allais pas trop en cours, mais genre vraiment très 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 peu. Et en fait, j'allais que aux examens. Mais les examens, j'avais de très bonnes notes. Donc du coup, pour moi, c'était suffisant, quoi. C'est comme, enfin, à la fac, si t'as pas envie d'aller tu passes tes examens, mais c'est bon. Moi, j'avais décidé que ça allait se passer comme ça. Et en fait, ils ont décidé de faire un exemple de ma personne, c'est-à-dire que bah voilà, la ponctualité dans les métiers de la restauration, c'est très important, etc. Ce que je conçois tout à fait, hein, c'est vrai. Donc voilà, t'as beau avoir des très très bonnes notes, bah en fait, on va pas te garder. Comme ça, parce que c'était un peu injuste envers les autres aussi. Mais meilleure chose qui me soit arrivée, j'en suis vraiment ravie.
Et on entend vraiment quand même que la cuisine, c'est une histoire de famille. Et t'as quand même ouvert ensuite ton restaurant à Lisbonne avec ton frère. Comment ça se passe, ça? Comment tu décides d'ouvrir ton restaurant et avec ton frère? Et comment ça se passe concrètement?
Alors, ça s'est pas passé comme ça. Okay. Non, c'est un truc dont on avait quand même parlé les années où on était encore à Londres.
Donc, t'étais avec ton frère à Londres?
On a travaillé succinctement ensemble à Londres, mais
vous étiez tous les deux
avec ma sœur et mon frère. On n'habitait pas ensemble, mais on était quand même on était dans la même ville, quoi.
Et vous êtes proches?
Bah là, du coup, ouais, ça dépend sur quel point, mais on est proches à notre manière, on va dire. Non, on s'était fait la petite promesse un petit peu sous une fois qu'un jour on ouvrirait un restaurant tous les trois et qu'on essaierait d'être dans le 50 best.
Ah ouais.
On était un peu sous. Mais c'était une petite promesse qu'on s'était faite tous les trois avant de se quitter, avant de partir de Londres. Et en fait, mon frère et son épouse sont, après le vote du Brexit, ils sont partis s'installer à Lisbonne. Moi, je suis partie en Amérique latine. Ils ont enclenché l'ouverture du restaurant, les travaux, etc. Et la vie, la conjoncture a fait que je suis venue leur donner un coup de main pour l'ouverture et c'était vraiment censé être temporaire. Et en fait, bah, ça va faire 6 ans. On s'est associés par la suite. Mais à la base, je faisais pas vraiment partie du projet.
Ok. Ouais.
Okay. Et je me suis bien imposée. Voilà.
Bien incrustée.
Je me suis bien incrustée, exactement.
Ce qui est intéressant dans ton profil, c'est aussi que t'as travaillé donc à Londres, mais aussi en Amérique latine, puis au Portugal et en France. Cet aspect multiculturel, qu'est-ce que t'en as tiré? Et notamment, ma question, c'est est-ce que t'as remarqué des différences suivant les pays sur la façon de gérer un restaurant, sur l'ambiance dans les équipes, etc.
Oui, 200%. Après mes expériences en France et en Belgique, bon là du coup on parle vraiment du milieu étoilé, j'avais décidé d'arrêter parce que j'avais vraiment subi des violences psychologiques dans ces endroits-là. Et en fait ça m'avait complètement dégoûtée, ça m'avait détruite. Émotionnellement, enfin même physiquement, psychologiquement, j'étais au fond du trou, quoi. Et
qu'est-ce que t'entends par violence psychologique?
Ben, le fait de travailler jusqu'à ce que tu puisses plus tenir debout. Donc, on parle de 16-17 heures par jour. Des violences sexistes. Plus, pour le coup, moi, j'ai pas subi de violences physiques. Pas trop. Non, pas de violences physiques.
Bah, le fait de devoir rester debout 16h, 17h, c'est un peu une violence physique, quoi.
Oui. Ouais, mais quand, en fait, je dis violence physique dans le milieu de la restauration, vu ce que j'ai entendu dire par mes confrères, c'est vraiment se prendre des casseroles bouillantes dans la tronche ou se faire griller la main directement, enfin, de façon très littérale. J'ai pas vécu de trucs aussi violents que ça, mais bon, il y avait quand même un petit peu des mains baladeuses. Et puis après, c'était surtout psychologique, en fait. Psychologique sur, t'es une femme, la façon dont on va te regarder, la façon dont on va te parler. Des trucs très, très ambigus, un petit peu, même un petit peu salaces. Et puis après aussi, le fait qu'on te dise que, en fait, t'as rien à faire ici, quoi. T'as rien à faire ici. Parce que moi, j'étais, non, je vais leur prouver que je peux, quoi. Et en fait, je me suis même moi-même presque infligé ces violences-là où, si il faut que je travaille 18 heures pour leur montrer que je suis capable, je vais travailler 18 heures. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas du tout durable. Et du coup, ça m'a vraiment complètement dégoûté de ce métier-là parce que c'était ma passion. Et en fait, les peu d'expériences que j'avais eues, ça allait à l'encontre pour moi des valeurs de la cuisine et des valeurs de l'hospitalité. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est à ce moment-là que mon frère m'a trouvé un boulot à Londres, il m'a pris un billet d'avion et il m'a dit on va pas gâcher ton talent et puis ton rêve et le jour où je suis arrivée en Angleterre, alors là complètement différent, mais vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire que on t'appelle par ton prénom, on te respecte, on demande d'où tu viens, on demande ce que tu penses de la soupe à l'oignon parce que c'est de chez toi et que ici est-ce que c'est conforme à la tradition, on écoute de la musique pendant la mise en place. Enfin, il y a un truc, je sais pas, vraiment
bonne
hyper
ambiance, quoi.
Ouais, et
horizontal.
Exactement. Beaucoup d'égalité, beaucoup de respect. On a le droit de rire. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les expériences que j'avais eues, t'es pas là pour rigoler, quoi. Même si tu souris un petit peu trop, tu vas t'en prendre une. Enfin, je caricature, mais on n'est pas loin de ça. On était vraiment pas loin de ça. Et puis après, il y avait le format un peu anglo-saxon qui est, peu importe en fait ton niveau d'expérience ou ton niveau d'études, si tu travailles dur et que tu te donnes les moyens d'y arriver, en fait, tu vas pouvoir gravir les échelons très rapidement. Il n'y a pas de, comme en France, je sais pas si c'est encore comme ça, je pense pas, mais pour être chef de parti, il faut avoir 5, 6, 7 ans d'expérience. Là-bas, non, c'est en fait, si t'es capable, vas-y, go, on te donne l'opportunité. Donc, il y avait vraiment cette différence-là qui est énorme en Angleterre et que j'ai adoré, qui m'a vraiment réconcilié avec le métier. Et puis après, l'Amérique latine, j'ai pas beaucoup bossé avec des locaux, si je puis dire. Enfin, parce que c'était un tout petit restaurant et j'étais toute seule en cuisine et j'avais des gens qui travaillaient avec moi dont c'était pas le métier. Donc, j'ai pas de trop d'avis sur cette question-là. Et après, le Portugal est encore quelque chose de différent. Okay. La culture de travail est encore différente.
Ok, comment ça se passe du coup?
Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, la culture gastronomique, elle est pas. Et la culture de la gastronomie en restaurant, enfin professionnellement, elle n'est pas aussi étoffée qu'un Français ou un Anglais qui travaille dans une grande ville, parce que la scène gastronomique, en fait, elle se développe que depuis quelques années, quoi. Ouais. Grand max 10 ans, mais vraiment depuis 4-5 ans. Donc, c'est encore quelque chose de très neuf. Donc, il y a tout un volet éducatif à... faut leur expliquer la différence, des fois, entre une côte de porc et une côte de bœuf. Je vais pas faire de généralité, mais c'est les cas par lesquels je suis passée quand moi j'ai débuté, où en fait il y avait tout un apprentissage à faire. Mais j'ai pas envie de généraliser. En vrai, j'ai pas du tout envie de généraliser. Donc et encore une fois, on va dire les Portugais ou les Brésiliens qui sont vraiment ambitieux, qui ont envie de réussir dans la cuisine, ils viennent pas travailler pour moi. Ils vont aller travailler pour les grands noms de la gastronomie au Portugal.
Okay.
Donc j'ai pas un spectre très objectif.
Ok,
en fait.
J'entends.
Et voilà. Donc,
okay.
Avoir d'avis sur la question.
Je voudrais qu'on parle un peu de ton expérience Top Chef avant de vraiment parler de la question, de nos questions qui nous sont chères, de l'éco-responsabilité, du bien-être au travail et de la question de la place des femmes aussi. Comment ça s'est passé pour toi, cette émission? Est-ce qu'au final, t'es contente de l'avoir fait et t'en as tiré du bien?
Oui, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que c'est un tremplin énorme et pour moi c'est même un miracle. Hein.
Okay.
Surtout au point de vue du restaurant, c'est un miracle absolu. C'est-à-dire que 2 ans auparavant, on était à 2 doigts de tout perdre et d'être endetté jusqu'à la fin de nos jours très probablement. Et 2 ans plus tard, le restaurant était plein à craquer, liste d'attente de 3 mois. Enfin, c'était un truc de fou. Donc on a pu repayer les dettes au fur et à mesure et puis même réinvestir et enfin waouh quoi. On s'est sorti d'un truc d'un tunnel où on est très 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 obscur.
Génial.
Donc évidemment enfin pour ça je suis d'une reconnaissance absolue. Après c'est pas non plus tout beau tout rose psychologiquement, c'est quand même pas évident hein, que ce soit le tournage ou la diffusion et le post diffusion, c'est pas évident à gérer non plus.
Ouais.
Le tournage, on dort très très peu, on se nourrit pas forcément, on se nourrit très mal. On a une dose de stress qui est terrible et personnellement, j'aime pas du tout être stressée. J'essaye justement de chez moi d'instaurer un environnement le plus sain possible, avec le moins de pression possible, et en fait je me suis presque retrouvée à aller à l'encontre de mes valeurs en fait quand j'ai commencé le tournage. Et les tout premiers jours j'allais voir la prod en mode non mais c'est pas possible de nous traiter comme ça, mon côté rebelle encore une fois, et ils m'ont très clairement dit en fait si t'es pas contente tu prends tes affaires et puis tu dégages. Et là, je fais non, je vais rester quand même. Hein. Donc, je me suis un petit peu pliée au jeu, mais c'était pas sans y laisser quelques plumes. Donc très difficile, je pense, physiquement et psychologiquement au niveau du tournage. Et puis après, la diffusion, c'est de passer de l'obscurité à la lumière.
Comment tu l'as vécu ça?
Je l'ai pas très bien vécu. Et je m'en sors tout juste maintenant.
Ah ouais, pourquoi?
Ouais. Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui a... En fait, j'aime pas beaucoup l'attention. Pour moi, vivons bien, vivons cachés. Alors moi, c'est très paradoxal hein, quand t'as fait Top Chef. Mais en fait, tout le côté médiatique, image, etc., c'est quelque chose qui me fait assez peur. Parce que je sais que c'est très facile de tomber là-dedans. Et comme beaucoup de personnes, comme une majorité de personnes, le regard des autres, on y prête beaucoup attention. Et c'est un truc qui peut très très rapidement te détruire un petit peu. Donc j'ai conscience de ma faiblesse par rapport à ça. Et du coup, j'ai toujours tout fait pour me préserver de ce truc-là. Donc, mais c'était difficile. J'ai réussi à pas trop tomber dedans. Mais c'est tout le temps, en fait, préserve-toi, préserve-toi, préserve-toi. Mais il y avait des trucs, enfin, c'est... Et je sais que je suis pas la pire, parce que en étant à l'étranger, je pense que j'ai été beaucoup moins exposée que des anciens candidats qui vivent à Paris, un Mohamed Cheikh, Chloé Charles, etc. D'être en train de faire tes courses un dimanche en tongs et en jogging et qu'on t'arrête pour prendre des photos, enfin...
Peut-être ça, là.
C'est pas évident parce que t'es pas sous ton meilleur jour. Puis en fait, des fois, t'as pas envie de parler, quoi. T'as envie juste de faire ton truc normal comme tout le monde.
Et pourquoi t'as fait Top Chef? Parce que tu savais que ça allait t'amener cette lumière?
Non. En fait, je pensais que j'allais être préservée en étant à l'étranger. Après, la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que nous, on
tu voulais
besoin,
sauver
enfin,
ton
il
restaurant.
Fallait quand même qu'on sauve le. Alors, à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, quand ils sont venus me caster, l'activité avait déjà bien repris, donc on était déjà un petit peu sortis de, On était sortis du, on n'était pas au bout du tunnel, mais au moins, voilà, l'activité était repartie. Et en fait, pour l'histoire, moi, je me suis inscrite en 2020 pendant le confinement, en me disant si jamais on perd tout et qu'on perd le restaurant, il va falloir que ça, ça pourra éventuellement m'aider à avoir des contrats, etc., faire de l'argent, parce que Top Chef, c'est une vitrine énorme et on nous propose des contrats de marque qui sont assez fous. Donc voilà, ça me permettra de d'aider mes parents qui ont mis toutes leurs économies, de toute leur vie dans ce restaurant-là, de mon frère qui va être endetté jusqu'à la fin de sa vie. Donc et puis si jamais on arrive à rouvrir, il faudra quand même qu'on puisse remplir le restaurant. Donc c'était vraiment ça la démarche. Et en fait, en 2021, ils m'ont rappelé. Je leur ai dit bah en vrai, j'en ai plus trop besoin parce que bah le restaurant se remet à bien marcher, etc. Et en fait, concours de circonstances. C'était Michel Sarran qui était venu manger complètement par hasard quelques jours après que le casting de Top Chef m'ait contacté. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé. Il m'a dit, mais Louise, il faut que tu y ailles, quoi. T'es en capacité de le faire. T'as, ton restaurant, il est bien. Ta cuisine, elle est bien. Vas-y, quoi. C'est une opportunité en or, du coup. Bah. Et là, j'y suis plus allée plus pour l'expérience, en fait. Ouais. Plus pour aussi apprendre. C'était me reconnecter aussi avec mon pays. Parce que ça faisait des années que j'étais plus en France. Mais j'y suis allée vraiment, il n'y avait aucun objectif derrière, j'avais pas pris ce truc de visibilité trop au sérieux, en fait, pour moi, déjà, j'allais pas durer très très longtemps, donc en fait, j'allais arriver aussi vite que j'allais repartir, ouais. Donc ça allait pas forcément trop me toucher.
Et comment t'as vécu, toi qui es touchée par tous les enjeux environnementaux et sociaux, comment tu vis une émission de télé qui est obligé de proposer tous les... Je sais pas s'ils sont... Je ne me rends pas compte à quel point, dans leur garde-manger, il faut proposer tous les produits en permanence, etc. Mais j'imagine qu'ils sont sponsorisés par des marques pas hyper éco-responsables et qu'il y a une question... Enfin, toutes les questions de gaspillage alimentaire, de saisonnalité, de protéines animales, elles se posent, quoi.
Alors, sur la question du gaspillage alimentaire, en fait, toutes les denrées qui n'ont pas été touchées, après, elles partent, si je me trompe pas, je pense que c'est pour la Croix-Rouge. Et ensuite, tout ce que nous, on prépare, on a tendance quand même à faire des préparations. Au final, on doit faire deux assiettes, mais on prépare un petit peu plus. Tout ça, enfin, il y a une équipe, il y a des centaines de personnes, en fait, dans les régies, derrière les caméras, etc. Donc, tout ça... Si on a bien fait notre boulot et que ce qu'on a fait, c'est pas trop dégueulasse,
c'est pas gâché.
Ça va être, normalement, ça va pas être gâché. Après, il y a un souci parce que c'est de la télé. Nous, on tourne entre octobre et décembre pour une diffusion qui va s'effectuer entre février et juin. Donc, en fait.
Il y a un décalage.
Il y a un décalage. Donc, en décembre, nous, on va tourner ce qui va être projeté en juin. Donc, ouais, la question de la saisonnalité est posée sur la table. Donc oui, on va avoir des...
Et tu vois, même en termes de goût des produits, est-ce que tu étais satisfaite des produits qu'on te donnait? Parce que ça ajoute de fou dans le goût de ton assiette, quoi.
En effet. Non, c'était un petit peu limité là-dessus. Après, j'ai eu l'habitude de... Notamment quand j'étais au Chili, de vraiment travailler avec les produits les moins chers et pas forcément de la meilleure qualité possible, d'en faire quelque chose de vraiment bien. Donc c'est pas quelque chose qui me faisait peur non plus, et parce que je sais aussi que on est tous déjà à la même enseigne là-dessus. Hein. Et j'imagine depuis les débuts de Top Chef, pas être vraiment jugé sur ce truc-là. Mais en effet, c'est beaucoup plus difficile.
Bah oui. Mais surtout les jurés, si t'as une cuisine. Ouais. Ok. Oui. D'accord, j'entends. Je voudrais évidemment qu'on parle de tous les sujets dont on a un peu parlé. Tu nous as dit, ton restaurant étant vers une pratique zéro déchet, tu as une carte essentiellement végétale. Comment ça s'est construit ça chez toi? Alors, j'ai l'impression que tu n'as pas eu besoin de te déconstruire parce que tu n'as pas vraiment fait d'études dans la gastronomie puisque tu as arrêté ton BTS très rapidement. Mais explique-nous comment ça s'est mis en place.
Je pense que j'ai toujours eu une conscience écologique de par le milieu où j'ai grandi et les gens qui m'entouraient, mes amis, etc.
Tes parents sont engagés sur ces questions-là ?
Oui. Donc, on a toujours été éduqués Mes parents sont très peu matérialistes, par exemple. Donc, on n'a jamais eu beaucoup de choses chez moi. Mais par contre, ils préféraient mettre leur argent pour nous emmener au restaurant ou nous emmener dans des coins chouettes, aller faire de la rando. Donc, je pense que déjà, ça vient de mon éducation où on n'est pas très attaché à l'argent. On n'a pas eu de problème d'argent. On n'a jamais roulé sur l'or, mais on n'était pas non plus... Pardon, je me suis très mal expliqué. On était très loin d'être pauvres, très loin d'être riches, mais en fait, c'était bien et ça suffit. Donc, on a vraiment été éduqués dans ce sens-là. Et c'est quand j'ai commencé à côtoyer des milieux où il y avait beaucoup d'argent et qui dit, beaucoup d'argent, c'est quand même un bilan carbone un petit peu plus élevé en général. Donc, quand je travaillais à Londres, à Knightsbridge, au Mandarin Oriental, et qu'en fait, quand j'allais prendre ma pause et que j'allais fumer ma clope, en face de moi, il y avait une banque avec la pub carte noire platinum, je sais pas quoi, vous pouvez dépenser jusqu'à 15 000 pounds en cash par jour, machin. Et en fait, j'étais en face de ce truc-là. C'est quoi ce monde? Je ne fais pas partie de ça. C'est un microcosme qui me... Et en fait, je ne veux pas participer à ce truc-là. Donc, j'ai démissionné. Parce que je voulais pas que ce soit de riches Qataris qui me payent mon salaire à la fin du mois. Et après, c'est quand je suis partie en Amérique latine, en backpack. Et j'ai toujours été un petit peu, babose 2000 sur les bords. Quand j'étais jeune, j'ai jamais voulu passer mon permis parce que je voulais pas rajouter une voiture sur la route. Donc du coup, j'ai tout fait en stop. J'ai fait toute la France en stop. Je faisais toute l'Amérique latine en stop aussi. Donc j'avais quand même cette double casquette de ouais, je cuisine chez les riches, mais à côté de ça, enfin, j'aime vivre un peu comme une super tramp, quoi. Donc je pense que ce truc a déjà été présent depuis longtemps. Et puis après, en grandissant et surtout en étant en étant chef, il y a eu le moment au Chili où on a ouvert ce restaurant, mais pour le coup, il n'y avait aucune démarche écologique derrière, mais il y avait vraiment plus une démarche sociale où en fait, c'était donner accès aux gens avec beaucoup moins de moyens à la cuisine française. Parce que au Chili, dans beaucoup de ces pays-là, les restaurants français, c'est les restaurants pour les riches, où on va manger du foie gras, où on est bien habillé, etc. Alors qu'en fait, il y a une cuisine paysanne qui est hyper accessible. Et vraiment, le but du restaurant, c'était ça. Donc là, c'était plus l'aspect social. Et ensuite, en déménageant à Lisbonne et en commençant à être vraiment autonome sur ma carte et sur ma proposition culinaire, au début, je faisais des épaules d'agneau confites. C'était un petit peu le plat signature que mon frère avait mis à la carte, etc. Et j'en faisais peut-être une vingtaine par jour. Donc tous les jours, je sais même pas combien de kilos ça représente, mais peut-être une trentaine de kilos de viande tous les jours à devoir préparer, quoi. Et en fait, ça me dégoûtait. Je me disais, mais attends, mais en plus, enfin, par deux épaules par animal, ça fait du coup... Merde, combien ça fait, ça fait plus ça fait 15 agneaux par jour. Juste pour servir des gens, alors qu'en plus, ils m'ont laissé la moitié parce que c'est trop bien servi. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, on arrête. Toute cette viande-là, cette abondance-là, on arrête. J'ai commencé à réduire la viande et voir presque... On en sert très très peu et en plus on la source d'une manière assez particulière.
C'est-à-dire?
Alors soit ça va être des, comment on appelle ça, des coupes, non, des morceaux.
Ouais,
des... Ça va être vraiment des morceaux mal aimés qui soit ont tendance à être jetés ou à être transformés pour aller donner à manger. Je sais pas, ça va finir en pâté pour chat ou en pâté pour chien. Soit vraiment aller travailler sur ouais, c'est ça, agriculture régénérative.
Agriculture régénérative.
Régénératif.
Tu cherches à régénérer les sols.
Je cherche à travailler avec les gens qui
régénèrent les sols.
Qui font ça et qui développent ça, c'est encore très nouveau.
Au Portugal.
Au Portugal, c'est très nouveau et on a comme enfin Le sourcing est assez compliqué. Dieu merci, ça se développe énormément sur ces dernières années. Mais
t'arrives à travailler en direct ? Comment tu fais ? Ou tu passes par des intermédiaires qui font le travail à ta place ?
Bah, les deux. Les deux. Je peux pas travailler à 100% en direct.
Ouais, bien sûr.
Parce que Portugal, c'est encore, il y a encore beaucoup, à part les néo-ruraux, on va dire, enfin les néo-agriculteurs, il y a encore beaucoup de producteurs qui sont à l'ancienne et qui ont un numéro de téléphone, mais ils ont pas d'adresse email.
Puis la logistique, c'est un métier.
Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont te livrer. Eux-mêmes savent pas quand est-ce qu'ils vont te livrer. Enfin, c'est logistiquement parlant, pour moi, c'est impossible pour ce que je fais.
Ouais.
En faisant 50 couverts par 5 soirs par semaine, c'est pas possible. Il y a des restaurants qui le font, mais qui ont quand même une plus petite capacité que la mienne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, il n'y a pas la place pour tout le monde. Parce qu'en fait, il y a une trop forte demande, il n'y a pas assez d'offres.
Ok.
Ouais.
Ok. Mais tu trouves aujourd'hui des intermédiaires qui sont engagés sur ces questions-là à te sourcer des agriculteurs
Alors, ça dépend dans quelle filière. Par exemple, filière fruits et légumes, pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires.
Par exemple, tu travailles en bio, toi ?
Bah, je travaille en bio dans la mesure du possible sur les légumes, mais du coup, ça en direct.
Okay.
Mais en fait, ça ne me permet pas de couvrir tous mes besoins. Donc après, ça reste quand même agriculture portugaise, mais c'est pas... Tout n'est pas en bio.
Okay.
Et là, je passe par des intermédiaires pour couvrir une bonne partie de notre consommation. Après, on reste évidemment en saisonnier et en local.
Et les Portugais, ils sont sensibles à ces questions-là, tes clients ? T'as l'impression qu'il y a une différence, par exemple, avec la France ?
Je sais pas s'ils sont... En vrai, on fait vraiment un travail d'éducation par rapport à ça, ou du moins on essaie vraiment sur chaque plat de leur expliquer le pourquoi du comment. Et je sais pas si c'est la raison pour laquelle ils viennent, je pense pas. Pour l'instant, je pense pas. Mais en tout cas, on fait notre taf en essayant de...
Mais tu vois, tu disais que tes équipes, il faut les former sur... parce que la gastronomie est toute récente. Est-ce que ça veut dire aussi que sur les enjeux écologiques de l'alimentation, bah forcément, t'es obligé de les former ? Et probablement en France aussi. Hein.
Ah bah évidemment.
Ouais.
Évidemment. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est un travail de tous les jours.
Ouais.
Et eux sont armés pour n'importe quelle question. Et puis en plus, ils vont aussi chercher par eux-mêmes. Donc non, on est assez blindés là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Après, moi, je suis pas en salle, donc les retours clients, enfin, en tout cas, comment les gens réagissent à ces questions-là, sincèrement, je sais pas réellement. J'espère que ça les intéresse et que ça les interpelle.
Mais tu penses pas que ça t'amène des clients aujourd'hui, ces engagements ?
Alors, je sais que le côté menu végétarien amène des clients. Ça, c'est important, mais je pense que c'est plus ce volet-là.
Ouais.
Plus que le reste.
Plus que le sourcing,
ouais.
En tant que tel. Ok. Et
j'ai
alors,
l'impression.
Tu t'es présenté tout à l'heure, enfin, tu nous as dit le Bouboust tend vers un lieu zéro déchet, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est pas un lieu zéro déchet, mais c'est plus un lieu. Zéro waste, c'est anti-gaspillage, en fait.
Alimentaire. Pas déchets, ça vaut aussi pour les déchets plastiques.
Alimentaire et déchets plastiques aussi.
Ah ok, d'accord.
Alors on n'est pas à 0%, hein. mais par exemple tout ce qui est plastique à usage unique, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas.
T'as réussi à te bannir, parce que nous c'est la question qu'on nous pose régulièrement, et les personnes qui se sont formées avec cela ont vraiment du mal à s'en passer, le film plastique.
J'en ai pas.
Ok, comment tu fais ?
Et ça fait très longtemps que j'en ai pas.
Tu fais quoi ?
Des boîtes.
Ouais.
Boîte en plastique.
Et alors, nous, la question qu'on nous pose souvent, c'est pour la pâtisserie, il faut filmer au contact, etc. Non.
Non, on le fait pas.
Non, mais c'est bien, il faut l'entendre,
non,
en fait,
non,
parce
non,
que
non.
Souvent les gens pensent, alors je sais pas comment ça se passe au Portugal, mais en France, tout le monde pense que l'hygiène, c'est une obligation, que l'hygiène oblige à mettre du film plastique partout. C'est faux, en fait.
C'est une obligation de résultat.
Et en fait, ils font des tests, mais voilà, il n'y a pas d'obligation de mettre du film plastique partout.
Non, non, mais juste tout en contenant réutilisable, en fait.
Ok, trop bien.
Voilà. Okay. C'est ce qu'on fait. Et puis après, cuisson sous vide, on en fait, mais on essaye de... bah déjà on essaie de le limiter parce qu'on utilise des sacs sous vide compostables et biodégradables, mais ça coûte tellement cher que du coup j'essaye de réduire au maximum leur utilisation.
Ouais, et puis moi je trouve qu'il y a toujours quand même la question de d'émigration de plastique dans les aliments dès que tu cuis sous vide, quoi, qui est un peu effrayante. Tu nous as parlé en off tout à l'heure de l'avion, parce qu'évidemment tu fais des allers-retours entre Lisbonne et Paris. Comment tu vis ça dans le cadre d'un engagement écologique ?
Bah, pas très bien, j'ai l'impression de un peu de me mentir à moi-même, hein. C'est pour ça que j'ai bien envie de le réduire. Là j'étais venue, je faisais un aller-retour presque tous les 40 jours. C'était à peu près mon rythme sur 2023 et 2022. Alors en 2022, parce que j'avais énormément d'obligations liées à Top Chef, post-diffusion, enfin pendant la diffusion et post-diffusion. Et cette année, parce que j'ai fait des contrats par-ci par-là dans lesquels je me suis engagée. Probablement un truc que je réitérerai pas.
Oui, parce que je voulais te poser la question pour Top Chef, mais on t'oblige, non, à faire des pubs pour Uber Eats et compagnie.
Ouais, c'est contractuel.
Ouais.
Okay. En fait, on est lié jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 6 mois après la diffusion du dernier épisode.
Ok.
Donc en fait, tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on passe par M6. Et puis il y a certains trucs en fait qui sont dans notre contrat. Le jour où on arrive au studio pour commencer le tournage,
ça doit pas être facile, tu vois, parce que quand tu mets des engagements sur la table et qu'ensuite derrière tu te retrouves à avoir ta tête sur Uber Eats,
c'est assez paradoxal. Après, est-ce qu'on peut vraiment être virtueux à 100% et en même temps être virtueux à 100%, peut-être que ça veut dire qu'on devra probablement faire une croix sur la visibilité et sur le fait en fait d'avoir une voix pour éduquer et informer
au
maximum.
Ouais, donc faut prendre l'argent là où il est aussi, hein.
Et exactement, en fait, choisir, faut plus être dans une démarche de un mal pour un bien, jusqu'à un certain niveau, hein. Mais je sais que c'est le discours de beaucoup d'anciens candidats, c'est qu'ils vont faire des opérations qui ont pas l'air incroyables niveau éthique, mais d'un côté on dit bah ouais, mais en fait moi j'ai besoin d'avoir des pépettes pour ouvrir mon restaurant, où je vais faire ci, ça, 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 et puis enfin c'est une industrie qui coûte super cher, hein. Ouvrir un restaurant, ça demande des moyens. Et les moyens, ils tombent pas du ciel non plus. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Ouais, chacun bien sûr. Non, mais nous, on se pose la question, tu vois, parce qu'on veut faire notre première grande cérémonie équitable, et la question des sponsors, ça pose tout de suite la question de l'éthique. Et c'est très compliqué aujourd'hui, si tu veux de l'argent, de se passer, en tout cas.
Et en vrai, dès que tu pousses un tout petit peu tes recherches, mais même pas besoin de les pousser très très loin, pour n'importe quelle marque, c'est jamais clean à 100%. Il y a toujours un truc.
Non, mais il y a quand même certaines qui sont pires que d'autres.
Oui, il y en a certaines qui sont pires que d'autres, complètement. Mais même s'il y en a qui sont lisses sur le papier, en fait, tu grattes un petit peu.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Le problème, c'est qu'en général, en plus, je le découvre après.
Après avoir signé.
Je me dis, franchement, ça a dû mieux faire tes devoirs.
Je voudrais qu'on parle de la santé dans l'assiette. On en a un peu parlé en introduction. Toi, comment tu crées tes plats par rapport à ça, tes recettes ?
Alors déjà, pour moi, il y a une question qui est centrale, c'est l'abondance.
Okay.
Le fait qu'on mange trop.
Ouais.
On mange trop. On mange trop, on mange trop.
Et à la différence, il y a des gens qui ne mangent pas.
Et à la différence, il y a des gens qui ne mangent pas, exactement. Alors nous, on essaye de... Alors sans dire d'être une grosse radine, parce qu'évidemment, j'ai pas envie que les gens partent et qu'ils aillent se taper un kebab après, mais vraiment qu'on soit sur quelque chose de hyper juste. Et en ce qui concerne la protéine animale, si elle a un impact écologique fort, qu'on soit vraiment dans la portion, on va dire, plaisir, plus que dans la portion, nutritive, quoi.
Aujourd'hui, t'es végétarienne, toi ?
Non.
Ok.
Non, non, non. Non, je mange très peu de viande, quasiment jamais. Et par contre, non, je mange beaucoup de produits de la mer.
Ok.
Et surtout beaucoup de coquillages. Alors, là, ça, c'est un truc qu'on a. Par exemple, le poisson, là, on l'a pas mal réduit et on travaille principalement avec, des espèces qui sont soit envahissantes, notamment quand c'est la période, on a le maquereau, le chinchard. En fait, c'est des trucs qui dévorent les, qui dévorent les côtes. Et après, des espèces abondantes qui sont pas du tout invasives ni quoi que ce soit, hein, mais des espèces qui sont abondantes et endémiques. Au maximum. Et après, ce qu'on travaille énormément, c'est les coquillages. Parce qu'il y a l'aspect régénératif et purifiant, ouais, etc.
Tu travailles avec les algues aussi ou pas ?
Énormément.
Okay.
Énormément.
Il y a un épisode, alors je vous invite si ça vous intéresse, on a fait un épisode sur les coquillages qui est assez enthousiasmant en effet, parce que moi je trouve que le poisson c'est une question extrêmement compliquée, peut-être encore plus compliquée que la viande. Et bah pour ceux qui peuvent pas s'en passer et qui ont pas envie de s'en passer, le coquillage en effet c'est une alternative hyper intéressante. Et les algues c'est enthousiasmant quoi, parce que t'as ce côté régénération des océans qui est hyper fort, captage de carbone, c'est chouette quoi. Pour revenir à la santé, donc du coup toi tu travailles sur cette abondance. Est-ce que tu travailles aussi sur l'équilibre de ton assiette
En
termes de santé.
En termes de santé. Alors, je ne pense pas le faire de manière consciente,
okay.
Mais j'ai une cuisine qui est très, qui est pour le coup qui est très saine. Je n'utilise pas beaucoup de, y a pas beaucoup de gras, pas beaucoup de beurre. Enfin, je dis ça, j'ai envie juste de faire un plat sur le, merde sur les produits laitiers en plus.
Et puis t'as cité la raclette comme plat.
C'est de la vache réformée, c'est de la vache laitière. Ça aussi, c'est une question. Ce plat est un petit peu épineux à expliquer pour le coup.
Explique-moi. En
fait, bah, c'est de la vache laitière donc, qui provient de d'une ferme régénérative. En fait, l'idée, c'est que la vache laitière, elle n'est pas élevée pour sa viande. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, elle se fait traire toute sa vie, la pauvre. Et ensuite, elle est abattue, mais elle est un peu laissée. Soit ils en font rien, soit c'est du hachis pas joli joli, mais en fait, il y en a beaucoup qui part à la poubelle. Donc, nous, on a décidé de lui faire un dernier hommage. Mais en fait, ça dépend. Est-ce que tu le vois comme un hommage ou si tu le vois comme le dernier
Ouais, les écoféministes, peut-être te diront que...
Ouais. C'est un peu... Non, mais du coup, pour le coup, c'est assez épineux comme question. Et en fait, on la travaille justement avec les produits laitiers pour boucler la boucle. Et alors, si... Enfin, moi, je trouve que c'est un plat qui est... à la fois très je pense pas qu'il soit c'est un plat qui est pas du tout virtueux, mais par contre c'est un plat que quand on le sert il crée énormément de débats et il fait réfléchir énormément.
Et tu le sers pour ça?
Je le sers pour ça, bien sûr. Mais moi en fait même nous en cuisine en fait
il t'a perturbé. Mais attends, c'est quoi ce plat du coup? Explique-nous.
Alors du coup c'est du faux filet de vache laitière qu'on vient maturer dans du beurre fumé et ensuite on le sert en fait toute la garniture, on va récupérer le beurre qui a servi à la maturation et on va travailler toute la garniture avec à la fois du yaourt, du petit lait, du lait, non on n'utilise pas de lait, petit lait, yaourt, du coup du beurre et du chocolat blanc.
Et t'as pas de végétal dedans?
Et j'ai du végétal.
Ah ok.
Si après c'est salsifis, qu'est-ce qu'on met? Salsifis et chou-fleur.
Ok.
Et aussi de la moelle.
Ok. Voilà.
Et ensuite, on fait une béarnaise avec le beurre qu'on a récupéré aussi, avec du petit lait pour remplacer le vinaigre dessus. Il est tout nouveau. Hein. On l'a fait il y a 2 semaines et à chaque fois que je le goûte ou que je discute avec des clients ou des gens qui ont goûté, en fait, je me retourne le cerveau à chaque fois. Je me dis, mais attends, mais enfin, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que...
Je comprends.
Je sais
comprends.
Pas, mais il nous fait nous poser beaucoup de questions.
Je te posais la question aussi de la santé parce que j'ai lu que tu étais atteinte d'endométriose et la question de l'alimentation, elle est forte par rapport à ça. Est-ce que du coup, tu adaptes ton alimentation et aussi tu adaptes l'alimentation que tu sers à tes clients et à ton équipe au regard de ce que tu as découvert sur le gluten, sur et les autres choses?
Alors, je sais, enfin, Ouais, en gros, l'endométriose, c'est une inflammation. Donc pourrait durer une... Enfin, il y a beaucoup d'aliments qui sont inflammatoires aussi. Donc, évidemment, la question, ça va être de réduire au maximum tous les aliments qui sont inflammatoires, notamment le gluten et puis après les épices, le lait, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Ou la viande rouge. Moi, je le fais pour moi-même. Est-ce que je vois une énorme différence? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est de pire en pire. Donc,
Et tu t'es passé radicalement de ces aliments ou tu as réduit?
Il y en a, alors radicalement, le gluten, j'essaye, je l'ai réduit à 95%. Des fois, je peux pas m'empêcher. En plus, je vais avec un Italien, donc c'est... Le gluten est quand même fait partie intégrante.
Ouais, après, il y a gluten et gluten. Ça va dépendre de la farine que tu as dans tes pâtes. Et j'en parlais avec l'Italien, le fondateur de Pane Vivo, qu'on a interviewé dans ce podcast, qui a lui-même été intolérant et qui, du coup, a créé quand même ce pain assez incroyable. Et il disait, pour les pâtes, rassurez-vous, c'est un peu, enfin, il me rassurait moi surtout, un peu différent parce qu'en fait, tu boues les pâtes, donc le gluten, il va quand même beaucoup dans l'eau.
Ok, bah, si moi ça me mettait vraiment mal hein, les pâtes pour le coup. Mais après, il y a des substituts qui sont super. Hein,
oui, maintenant.
Les farines de maïs, etc.
Ah, ouais, c'est clair.
Donc, Dieu merci, j'ai pas besoin de m'en passer complètement. Mais non, bien sûr, ça c'était une question qui était centrale chez moi, mais au niveau de la santé de manière générale. Parce que si, j'ai une tante nutritionniste naturopathe.
Ah ouais.
Ma mère qui est bien là-dedans aussi. Moi qui ai un petit peu étudié en Inde l'Ayurveda, etc. Les doshas. Donc, bon, toute cette question de
l'alimentaire
et de la... Je m'y connais. Enfin, non, je l'ai touché du doigt très rapidement. Mais bon, c'est quand même quelque chose que je garde en tête et que j'ai envie de découvrir un petit peu plus d'ailleurs. Et évidemment. Par rapport à mon équipe, oui, c'est quelque chose qui est hyper central. D'ailleurs, enfin, au tout début, quand j'ai ouvert, là, autant ça va parce que mon équipe, c'est des gens qui ont décidé de venir travailler avec moi parce qu'ils adhèrent à ce que je représente. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, quand je devais expliquer, il y a 5 ans, quand j'ai ouvert un restaurant, que non, on mangera de la viande. Non, je voulais faire un jour végétarien par semaine.
Oui, ce qui n'est pas énorme.
Et en fait, il y a eu une coalition au niveau du staff. Et c'est non, mais moi, si je ne mange pas de poulet, je ne peux pas tenir et tout. Mais du coup, on a dit, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Donc non, on va prendre une après-midi, tout le monde va venir plus tôt. Et puis, on va faire un cours de nutrition.
Non, mais tu sais que, moi, ça me fascine. Mais quand on a voulu faire un jour végétarien à l'école,
oui.
Le lever de bouclier des parents.
Non, ouais.
Non, mais...
C'est délirant. C'est délirant.
Ok, donc tu l'as quand même imposé à ton équipe dans une certaine mesure.
Dans l'équipe, enfin c'est imposé. Oui, non, si c'est imposé.
Ok.
Non, sincèrement, c'est imposé. C'est-à-dire que je vais jamais acheter ni du poisson ni de la viande, juste des coquillages pour le staff. Et de toute façon, en fait, on n'a pas besoin parce qu'on a tellement de déchets dû ouais. à la transformation des aliments qu'on fait pour les clients qu'on en a pas, on en a pas besoin.
Tu nous as dit, on en a parlé un peu de la place des femmes. Ton restaurant, Boubouz, il est essentiellement constitué de femmes aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est toi qui as envie de t'entourer de femmes ou c'est parce que les femmes postulent plus chez toi parce qu'ils savent?
Il y a plein de raisons. Je pense que la raison primaire, ça a été vraiment... en fait, quand c'est arrivé de façon involontaire et c'était juste après la pandémie. En fait, nous, on avait viré personne de notre staff. Malheureusement, on a fermé plusieurs mois. On n'a pas fait rentrer d'argent, donc on n'a pas pu les payer. Et quand on a pu enfin rouvrir le restaurant, comme une faveur, on a demandé à notre équipe s'ils pouvaient venir travailler 2 semaines. Et à la fin du mois, on leur paierait le mois entier. Sachant que du coup, personne n'avait eu de rémunération pendant 2 ou 3 mois. Et vu qu'on les avait pas virés, ils ont pas touché d'aide de l'État non plus. On n'a pas touché d'aide de l'État non plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a que les nanas qui sont revenues. Donc on s'est retrouvés genre 5-6.
Comment tu l'expliques?
Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'était peut-être l'adhésion au projet. C'était bah en fait là on se serre les coudes. Il y en a plein qui sont partis. Il y a plein de nanas qui sont parties aussi. Hein. Mais et en fait ce qui s'est passé c'est que il y en avait quasiment aucune à part moi qui avait un poste à responsabilité, un poste managérial. Et en fait du coup bah il a fallu récupérer tout le poste managérial et il s'est passé une espèce de cohésion totale où en fait bon bah ok il faut s'occuper de quoi, toi tu fais ci, toi tu fais ça, ok moi je peux m'occuper de ci, blablabla. Et en fait on allait chercher toutes les responsabilités qui existaient et qui nous étaient pas dues avant et on s'est serré les coudes et on l'a fait de manière hyper communautaire en fait. Et ça s'est trop bien passé. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place le projet éco-responsabilité et durabilité chez Boubouze. On a monté des dossiers, on s'est intéressé, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, c'était tellement sain et c'était tellement productif. J'avais jamais vécu ça. Et c'était aussi à la fois un cadre hyper, hyper sain où en fait, on osait élever notre voix et dire ce qu'on pensait et nos idées, etc. Et à la fois, c'était un cadre où il n'y avait pas de jugement. Et c'était un cadre aussi qui accueillait totalement la vulnérabilité de tout à chacune. C'était hyper, hyper galvanisant et hyper ressourçant, en fait. Donc très naturellement, moi, ça m'a fait un déclic. J'ai envie de poser. En fait, c'est trop simple. C'est trop simple de bosser avec des nanas. Et moi qui avais beaucoup de problèmes déjà à manager des hommes, mais par mes propres biais aussi. Hein. C'est-à-dire que, et je sais pas pourquoi, et en vrai je continue aujourd'hui, c'est que je vais avoir beaucoup moins de facilité à donner des directives à une femme qu'à donner des directives à un homme. Encore aujourd'hui. Et je me déteste pour ça, mais je vais tout le temps prendre des pincettes, des fois laisser glisser des trucs parce qu'en fait j'ai peur d'être dans le conflit parce que j'ai peur de pas être écoutée et qu'on me prenne pas au sérieux. Mais parce que par le passé j'ai eu un employé quand même qui m'a mis une patate.
Ah ouais.
Vraiment des trucs franchement des trucs lunaires quoi. Et encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait de mal pour mériter ça.
Incroyable.
Ah ouais, donc là, c'était vraiment, en plus, tu sors de la pandémie et tout, c'était pas un moment, une période facile. Et ça, ouais, c'était vraiment, ça m'a permis de souffler. Et en fait, je me suis dit, en fait, manager des nanas, c'est trop simple. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient bien.
Ouais.
Donc, je vais continuer là-dedans. Et puis après, chemin faisant, c'est aussi, tu te rends compte que, du coup, t'accueilles des talents et t'as des nanas qui commencent à entendre parler de ce truc-là, et qui disent, je vais aller bosser là-bas, parce que c'est un endroit qui est, déjà que je suis pas forcément en sécurité, ni à la maison, ni dans la rue, ni dans les transports. Au moins, si je peux être en sécurité quand je suis au boulot, chouette quand même. Et surtout qu'auparavant, le peu de nanas.
Surtout dans le milieu de la restauration.
Oui, oui. Et puis quand on a ouvert, j'ai le peu de nanas que j'ai eu, toutes, elle venait de milieux assez défavorisés et de vraiment de familles à problèmes. Et en fait, toutes ont eu des problèmes de violence à la maison, avec les conjoints, avec le père, enfin avec la mère aussi. Et vraiment, c'était comment c'est possible ? Et toutes venaient avec un fardeau, mais énorme quoi. Et en fait, là, quand elle venait au boulot, c'était le moment où elle pouvait faire et être ce qu'elle voulait. Et on a réussi ensemble à les tirer un petit peu de ce truc-là et à leur faire comprendre qu'elles ont un potentiel énorme et en fait qu'il faut qu'elles se détachent de cet environnement toxique et qu'elles peuvent exister par elles-mêmes quoi. Mmh. Que même si elles ont pas eu toutes les cartes en main dès le début, c'est une voie, en tout cas la cuisine, c'est une voie où elles peuvent vraiment réussir quoi.
Ouais.
Donc ça a été assez galvanisant sur ce point de vue-là. Et après, ça a attiré beaucoup de talents. Ça a attiré beaucoup de talents qui ont adhéré au projet. Et après, l'effet top chef, c'est que, évidemment, j'attire des personnes qui arrivent à s'identifier, ce qui est normal. Et pour autant, les candidatures, elles sont pas du tout fermées aux hommes. J'ai des garçons dans mon équipe, que ce soit en salle ou en cuisine. Par contre, c'est vrai que je reçois beaucoup plus de CV intéressants de la part des nanas, parce que du coup, c'est on va dire peut-être les plus ambitieuses qui viennent bosser pour moi, parce que les mecs les plus ambitieux vont aller bosser chez José Avilés et pas chez Louise Bourra.
Ouais.
Donc voilà, c'est comme ça. Mais il y a pas de discrimination à l'embauche. Je pense que j'en ai fait une époque et après je me suis dit mais en fait ça va. Again, ça va à l'encontre de ce que
de tes principes.
Bah de ce
vers
de ce
quoi
sur quoi tu te bats. Mais encore une fois, c'est très enfin c'est assez comment je dis, c'est assez touchy comme sujet, parce qu'en même temps, est-ce qu'on n'a pas aussi le droit de se retrouver entre femmes parce qu'il y a des
il y en a dans toutes les communautés, si je peux utiliser ce mot, de personnes qui se sentent violentées ou
exactement
ostracisées.
Exactement. Ouais. Donc c'est complexe hein, comme c'est vraiment un sujet hyper ouais, complexe hyper et moi complexe. Des fois je sais pas forcément trop où me placer non plus.
Je comprends. Dernière question et après on va conclure parce que là le temps file. Hein. Tu nous as parlé de bien-être au travail, tu nous as dit tout à l'heure j'ai besoin de mettre sur pause, de retrouver un équilibre et c'est vraiment un sujet hyper fort dans le milieu de la restauration. Comment t'organises ton restaurant pour permettre ça ?
Alors nous on travaille, on est en semaine de 4 jours. Maintenant, on est ouvert 6 jours par semaine, depuis quelques semaines, mais le staff travaille 4 jours.
D'accord. Tu fais midi et soir ?
Non, que le soir.
Ok.
40 heures par semaine, donc du coup, ils font des shifts qui sont un petit peu plus longs. C'est-à-dire, c'est des shifts d'à peu près 10 heures. Donc oui, c'est un peu plus long qu'une journée normale, sauf qu'après, bah, t'as 2 jours consécutifs, voire 3 jours consécutifs, et peut-être un autre jour dans la semaine. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que ça vient vraiment.
T'arrives à respecter les. Alors, je sais pas comment ça se passe le droit du travail au Portugal, mais t'arrives à ne pas dépasser les 40 heures par semaine ?
Non, des fois on les dépasse. Clairement, des fois on les dépasse parce qu'on n'est pas assez staffé. Mais c'est d'un commun accord avec tout le monde. Et après, on paye les heures extra.
Ok.
Voilà. Et c'est un truc qu'on valide. Et en fait, il y en a aussi beaucoup parce que les salaires sont pas incroyables non plus. Même si nous, on paye bien au-delà de la moyenne. J'ai beaucoup d'étrangers en fait qui bossent en cuisine avec moi, notamment beaucoup de francophones. Et bah du coup, ils ont tout quitté, que ce soit en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, pour venir travailler à Lisbonne. Mais bon, c'est pas les mêmes salaires. Donc eux sont contents de pouvoir se faire un petit billet en plus.
Ouais.
Et aussi parce qu'en fait ils sont hyper hyper dévoués et qu'ils ont envie de passer du temps. Des fois je suis obligée de les dégager en me disant mais là vous rentrez à la maison les gars. Donc c'est chouette. Et après je pense qu'il y a un autre volet qui explique énormément les violences en cuisine. Et quand je parle de violence, c'est à la fois envers les femmes, envers les stagiaires, envers les hommes, envers les homosexuels,
bien sûr.
C'est le problème en fait qu'on est on est beaucoup trop sous pression. Il y a trop de pression, il y a pas assez de respect et qu'en fait on a le sas de en fait on nous permet pas d'avoir un sas de décompression suffisant. Donc du coup bah on tombe très rapidement dans de l'abus d'alcool, de substances, etc. Et en fait enfin ça te bousille, puis ça te bousille ta vie privée aussi, parce que c'est très très dur d'avoir des amis, c'est très très dur d'avoir une famille, c'est très très dur d'avoir des relations saines. Je suis passée par là et c'est bien pour ça que je suis partie de Londres, parce que tu peux pas tenir sur la longueur, ou sinon à quel prix. Donc en fait il faut juste réintégrer un petit peu d'équilibre aussi, la valorisation du métier, à la fois du savoir, donc ça passe par des... Nous, on fait beaucoup de trainings toutes les semaines. Ça peut être sur le leadership, time management, l'éloquence, histoire de la gastronomie. Après, on fait aussi des ateliers plus en cuisine, du coup, c'est des ateliers créativité, etc. Valorisation, et puis après, c'est l'accompagnement aussi dans le chemin de tout à chacun, quoi. Donc vraiment faire des évaluations, des points à s'améliorer, etc., etc. Et en fait, ça crée des êtres qui sont hyper, déjà qui sont pas fatigués, qui sont motivés. La plupart vont pas rester au bout d'un an. En général, ils partent, mais ils partent avec un sacré bagage et ils tirent la main en partant et ils vont voler vers d'autres lieux. Mais en tout cas, on crée des professionnels qui sont sains et ça change tout.
Ouais, bien sûr.
Et il y a un autre petit truc aussi, c'est ça, on fait ça depuis 2020, c'est que tous les pourboires, tout le monde en fait reçoit exactement la même chose. On a très peu de disparité de salaire, vraiment pour en fait valoriser chaque corps de métier au sein du restaurant, et qu'en fait c'est pas parce que t'es serveur et que t'as fait 70 balles sur une table que tu vas garder les 50% et tout le monde se dispatch le reste. Non, en fait, le travail de mon plongeur, de mon sommelier, de mon chef de partie, de mon commis, il intervient au même, enfin, il a autant d'impact, ils ont autant d'impact les uns que les autres dans l'expérience client, en fait, à la fin. Donc, ça permet vraiment d'avoir une atmosphère hyper saine où il n'y a pas de compétition et en fait, tout le monde bosse ensemble. Et il y a énormément de respect et franchement c'est trop chouette quoi, ça crée vraiment un environnement hyper hyper familial avec des liens qui sont super forts et hyper égalitaires aussi quoi.
La question de la vie de famille, je trouve qu'elle est en effet très forte. Toi, t'es une femme, t'envisages d'avoir une famille avec ce métier?
Le fait d'avoir des enfants ou pas, ça n'aura rien à voir avec mon métier. Pour le coup, c'est plus lié à une conscience écologique, sociale, c'est plus lié à ça.
Ok,
c'est plus lié à ça.
J'entends. On va conclure ce podcast. Je vais te poser deux dernières questions. Une question plus politique que je pose à tous mes invités. Si tu avais une mesure politique à souffler au gouvernement pour une alimentation plus durable, qu'est-ce que ce serait?
Je vais dire ça comme ça parce que c'est une question sur laquelle j'ai jamais réfléchi, mais on pourrait penser à un rationnement en fait. Surtout, non, mais un rationnement plutôt, par exemple sur la viande.
Ok.
Sur la viande ou les produits de la pêche. Franchement, je dis ça comme ça parce que j'ai jamais réfléchi. J'imagine que ça doit engranger tellement de.
Ouais, il y a plein de sujets.
C'est complexe, c'est une question.
Mais c'est intéressant. C'est quoi l'avenir pour toi? Tes projets?
Mes projets, continuer ma vie simple, là où je suis. Je vais m'installer à la campagne là bientôt. Donc,
À la campagne de Lisbonne ou?
Ouais, campagne de Lisbonne. Okay. J'espère, là. J'espère. J'espère pouvoir signer la semaine prochaine.
On croise les doigts.
Écoute, petite vie. J'ai pas prévu de m'étendre plus que ça. En vrai, je suis heureuse là où je suis. Je suis heureuse avec mes équipes. Je suis heureuse dans mon restaurant. Ça me suffit. Je me considère comme une éternelle satisfaite. Donc, pourvu que ça dure.
Belle conclusion, merci beaucoup Louise Bois.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.